pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire se passe dans le nord de la France, à côté de Lille ou peut-être de Tourcoing, dans une école maternelle. Elle nous a été racontée par une déléguée de parents d'élèves, saisie par une maman, venue la voir très émue, presque en larmes, avec le récit suivant. Ce jour-là, la maîtresse de sa fille a prévu une sortie de classe, une visite dans une ferme, accompagnée comme il se doit par quelques parents d'élèves. Cette maman, que nous appellerons Sarah, est l'une d'elles. En complément de cette expérience pédagogique, quelques jours plus tard, l'enseignante conçoit dans sa classe une petite exposition de toutes les photos prises pendant la sortie à la ferme. Les parents sont conviés, après les cours, à 16h30, à voir le travail. Nous sommes en 2004, la loi sur les signes ostensibles de religion à l'école a été adoptée il y a peu. En entrant dans la classe, Sarah se cherche naturellement dans la série de photos exposées. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle découvre sur la photo censée la montrer avec sa fille que son visage et son corps ont été soigneusement découpés par la maîtresse, laissant place à un trou au milieu de la photo. La découpe est précise, arrondie, il n'y a pas de doute. Elle vise bien à supprimer Sarah de l'exposition. Dans un premier temps, cette maman est désemparée. Réellement, elle ne comprend pas. Elle interroge timidement la maîtresse, qui lui explique qu'au nom de la laïcité, son visage voilé ne peut pas figurer dans une salle de classe. Pas plus, en vrai, que sur une photo. Qu'importe la violence symbolique du découpage, la discrimination exercée à l'égard de la petite fille ou le simple manque de tact, la maîtresse ne doute de rien. Priée de s'expliquer ensuite par la déléguée des parents d'élèves et par la directrice de l'école, plus modérée, l'enseignante s'en tient à sa position. Sarah, la mère, un peu perdue, finit par laisser tomber l'affaire. Aujourd'hui et demain, dans Les Pieds sur Terre, à l'heure où plusieurs candidats à la primaire de droite envisagent d'interdire le voile à l'université, mais où les mères voilées viennent d'être officiellement autorisées à accompagner les sorties scolaires, à l'heure où on confond encore allègrement niqab, tchador, hijab et foulard islamique, quelques histoires de filles voilées, ou dévoilées, ou revoilées, plusieurs regards différents, points de vue divergents, pour faire réfléchir sans commentaire. Au-delà du voile, c'est le premier épisode, jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, par Charlotte Bien-Aimée.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Ça fait 27 ans que je donne des cours à la fac de Villetaneuse. Et ça faisait quelques années que je donnais des cours en Master 2 de droit des affaires. Et ce jour-là, comme toujours, j'arrive à l'université comme d'habitude. Alors, c'était dans la semaine qui suivait la manifestation immense à Paris, après le meurtre de toute l'équipe de Charlie Hebdo. Donc la fac est absolument constellée d'affiches « Je suis Charlie ». On est en plein dans ce phénomène, on peut dire, de communion nationale. Donc je vais pour démarrer mon cours, donc il y a une quinzaine ou une vingtaine d'étudiants devant moi, on est dans des petites salles. Donc je rentre dans la salle de cours, je commence à découvrir les étudiants et je vois qu'au premier rang, une jeune femme portant le voile parmi les étudiantes est là. Alors, le voile qu'elle portait n'était pas de ces voiles extrêmement agressifs où on voit pratiquement que les yeux. C'était un voile qui était clair, le visage était visible, hein, elle avait juste un voile qui faisait le tour du visage, mais qui, quelque part, manifestait une culture différente de la nôtre. Ça faisait quelques années que j'avais vu des étudiantes progressivement porter le voile à l'université. C'est quelque chose qui m'a toujours dérangé. Je me dis que là, il est temps pour moi de m'exprimer. J'avais envie de dire... Je vais vous expliquer comment ma manière à moi de ressentir le port du voile. Ce port du voile me dérange, me gêne, et voilà pourquoi il me dérange, et voilà pourquoi il me gêne. Et je leur explique, je suis un petit môme de la République, j'ai fait l'école publique, je l'ai faite dans une commune un peu symbolique dans les années 60, qui est la commune de Sarcelles, où j'étais à l'école primaire, et où on peut dire que, question mélange, il y avait tout ce qu'il fallait, hein, et ça se passait très bien, mais il n'y avait pas d'affichage communautaire. Et je leur explique aussi la manière dont on a rejeté la religion, qui était pour nous la source de beaucoup de maux. Les religions, c'était les curés qui nous emmerdaient avec la volonté toujours présente de vouloir s'imposer dans la vie civile quotidienne pour donner des règles de conduite à l'encontre desquelles je me battais dans mon quotidien, dans une volonté de liberté. Moi, je rêvais d'aller pisser dans les bénitiers quand j'avais 15 ans. Et la religion, elle était bonne à mettre au placard, quoi. Alors, je la tolérais, comme je la tolère toujours aujourd'hui. Mais qu'elle ne s'affiche pas dans cette forme de revendication qui, pour moi, est extrêmement dérangeante. Alors, je lui ai parlé à elle directement. Je lui ai dit que je ne la visais pas en tant qu'individu à titre personnel, mais que c'est le symbole que je visais et que j'avais rien contre elle, qui bien évidemment a le droit d'exister, de pratiquer sa religion comme elle l'entend. Je n'ai pas d'antagonisme lié à la spécificité de la religion musulmane. Mais je me bats contre elle parce que c'est celle qui devient la plus visible et c'est celle qui se manifeste avec le plus de force. Donc nécessairement, c'est celle que je vais combattre plus que les autres. Et je le ressens aussi comme un prosélytisme rampant. Qui fait que, c'est simple, on en a eu une qui était voilée une année, puis après il y en a eu deux, puis après il y en a eu 10, puis après il y en a eu 20. Alors, les quelques étudiantes voilées, qui sont quelques pourcents des étudiantes, ça les rend particulièrement voyantes, et elles sont extrêmement visibles. Certaines en sont à porter le voile avec les mains qui sont couvertes, ou ce genre de choses à l'université. Moi, quand je vois ça, dans cette université que j'ai connue dans les années 80, qui était une espèce de melting pot, où ça venait de tous les horizons, où on ne voyait rien du tout, ça m'agresse indiscutablement. Et donc j'ai dit que l'affichage communautaire est vécu par moi comme une agression, et j'en ai une réaction épidermique. Fait sauter dessus, littéralement, parce que j'en ai deux ou trois qui ont manifesté leur total désaccord, premièrement sur le fait qu'ils étaient là à l'université pour suivre un cours et pas pour entendre mes états d'âme et ma réaction épidermique, puisque c'est le mot que j'ai employé, et deux autres étudiants, je crois, qui sont venus me dire, mais enfin, votre propos est agressif, intolérant, on m'a renvoyé quelque part à mon intolérance à moi, pour me dire que j'avais pas à l'agresser de cette manière-là, que la loi disait qu'elle avait le droit de porter le voile, et que par conséquent, mais je sentais, une forme de communion ou d'adhésion de la part de ces étudiants. Et comme Charlie s'était déroulé quelques jours plus tôt et qu'il y avait eu la manifestation du dimanche, c'est là que, après une trentaine de minutes de débat, je les ai interpellés en disant « Mais est-ce que vous êtes Charlie ?» Et là, je crois que les trois m'ont répondu « Mais je ne suis pas Charlie ». Et ça m'a coupé les genoux parce que ça m'a anéanti. Je me suis dit « Mince alors, notre jeunesse n'a pas le sens du drapeau, il n'y a pas, nous ne partageons pas les mêmes valeurs, les mêmes combats, les mêmes symboles nationaux ». Et ça m'a fait un mal terrible en fait. De voir que j'étais avec des jeunes à qui je donnais des cours et qui n'étaient pas Charlie comme moi je l'étais, comme moi je l'ai ressenti avec... Ah ça m'a anéanti. Et d'ailleurs, après j'ai dit « Bon ok, je donne mon cours ». Et j'ai donné mon cours. Dans les 24 heures, je reçois par mail un message de mon patron de formation qui me dit qu'il a reçu des mails et des appels téléphoniques pour se plaindre de mon comportement pendant mon cours, d'avoir provoqué les étudiants, les avoir interpellés sur le port du voile de cette jeune femme, et il me demande des explications. Je tiens à vous faire part de mon étonnement quant à l'attitude de Monsieur Radier. Il nous a fait part de son indignation quand il a vu qu'une étudiante voilée faisait partie de notre promotion. Donc qu'il ait des réactions épidermiques, je cite, concernant tout ce qui touche aux faits religieux et son droit. Mais nous en faire part pendant 30 minutes ne relève pas de sa compétence. Il me semble qu'il se méprend sur la conception de la laïcité. Il estime que les religions doivent rester dans les murs des maisons et qu'un juif ne doit pas porter sa kippa à l'extérieur, ni une musulmane le voile. Je respecte tout à fait sa conception de la religion et la discussion aurait pu être pertinente et intéressante, mais pas pendant son cours, ni de la manière dont il l'a abordée. Respectueusement. Deuxième mail. Au début du cours, Monsieur Radier a voulu nous faire part de ses impressions et de son ressenti sur les signes communautaires. Il s'est prévalu de son droit à la liberté d'expression. Cependant, ce qui nous a profondément choqués était le ton très agressif qu'il a employé. Je souhaiterais pouvoir vous en parler dès que possible pour vous faire part de la violence de ses propos et je ne pense pas pouvoir assister de nouveau à un cours assuré par lui, cordialement, etc., etc. Alors, je considérais que l'affaire était close par le fait que j'avais donné mon cours et qu'on avait débattu et je pensais en rester là. Et d'ailleurs, je m'apprêtais à donner mon cours la semaine suivante, puisque j'avais un autre cours à donner la semaine suivante. Voilà. Et le fait qu'eux aient pris l'initiative de s'en plaindre, je me dis, mais finalement, je ne me reconnais pas quoi, avec ces jeunes, et qu'est-ce que je vais faire à l'université? Est-ce que véritablement ça mérite de poursuivre dans ces conditions-là, alors que je me sens si éloigné de cette jeunesse et de son approche. Voilà. Et je vais donc l'exprimer par écrit en leur répondant. Alors voilà, je confirme en tout point les faits qui vous ont été rapportés par ces étudiants, j'assume le contenu de mes propos et je les revendique haut et fort. J'ai toujours été un adversaire de l'affichage de l'appartenance communautaire, quel qu'il soit, dans la sphère publique de notre pays. J'ai bien vu fleurir le voile à l'université depuis une quinzaine d'années et je redoutais le moment où j'aurais à affronter le visage d'une étudiante qui me l'imposerait. Alors oui, je ne supporte pas de voir le visage d'une étudiante voilée. Oui, je ressens comme une agression cet affichage communautaire qui revendique son appartenance à un univers où la femme est traitée comme un être inférieur. Oui, je refuse d'abandonner ce qui a été mon combat toujours contre les religions, berceau de toutes les intolérances. Après avoir longuement hésité, j'ai finalement décidé de donner mon cours. Je regrette d'avoir hésité et je vais aller jusqu'au bout de mes idées. Quelle que soit la règle, je ne ferai plus cours devant une étudiante voilée. Je lui demanderai poliment de l'ôter et si elle refuse, je ne ferai pas cours. Respectueusement, amicalement et désespérément, Charlie. Jean-Claude Radier. J'ai un message dans les quelques heures qui suivent de la part du doyen de l'université disant voilà, on ne peut pas accepter de la part d'un enseignant un tel discours. Et il est clair que face à une règle qui autorise le port du voile à l'université, un enseignant n'a pas à prendre l'initiative personnelle de décider s'il donnera un cours ou s'il n'en donnera pas. Par conséquent, je suis immédiatement suspendu de mes activités à l'université et là je cesse immédiatement de donner des cours. Il faut savoir que j'ai une de mes filles qui était à l'université de Villetaneuse et qui a dit « Mais papa, tu délires, t'as un vieux crouton, t'es plus à ta place là. Les voiles, on en a partout, j'ai plein de copines qui portent le voile, ça ne pose aucun problème. Qu'est-ce que t'as besoin d'avoir cette réaction-là » Elle considérait que le port du voile à l'université ne soulevait aucun problème. Parce que les jeunes filles voilées, ça les empêche pas de mettre des chaussures vernies ou de s'habiller. Et elles viennent boire un café avec nous, on papote, on parle des trucs de filles, etc. Donc comme les autres. Alors que moi, j'en avais une vision qui était une vision déformée. Je les voyais comme des pratiquantes bigotes qui communiqueraient pas avec les autres, qui resteraient dans leur univers. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ma sœur m'a engueulé comme c'est pas possible après en me disant « Mais comment tu peux faire ça avec nos traditions familiales ?» Moi, j'ai eu des parents communistes alors, qui allaient manifester dans les années 50 pour l'autodétermination, pour le droit de vote des Algériens. Donc, j'ai été fâché un an et demi avec ma sœur à cause de ça. J'ai eu un comportement pour elle qui était complètement à l'encontre de ce qui constituait nos valeurs, qui nous unissent, qui nous rapprochent et qui font qu'on appartient au même univers. Alors bon, ça m'a interpellé. Alors, j'ai été invité à un colloque à Sciences Po l'année dernière, un peu après. Alors, il s'avère que au moment du débat, donc une des invitées était une jeune femme qui portait le voile et qui le revendiquait, et cette femme exprimait les difficultés qui étaient les siennes. Le regard des autres, dans les lieux publics de manière générale, au prétexte qu'elle porte le voile, elle est montrée du doigt, elle est traitée comme une paria à certains moments, et elle est même quasiment insultée. Donc cette femme me l'a renvoyée au visage en me disant « Mais je suis la victime d'une ségrégation des gens comme vous ». Et ça m'a profondément touché, et ça a ajouté aux doutes qui ont été les miens. Le regard de ses étudiants, le regard de mes enfants, le regard de ma sœur, cette militante de la liberté des femmes de porter le voile, dans son discours, m'a touché quand même. Et mon instinct naturel dans la défense des minorités fait que ça m'interpelle.
Est-ce qu'aujourd'hui, si vous repreniez les cours, vous restez sur vos positions de ne pas donner cours à une jeune femme voilée ?
J'en sais rien. Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je suis indiscutablement plus dans le doute.
France Culture, les pieds sur terre.
Quand j'étais collégienne en 6e, moi à ce moment-là, j'étais un petit peu pratiquante, je faisais mes prières. Et peu de temps après, j'ai voulu mettre un bandana sur la tête en guise de foulard. C'était pour moi une obligation sans l'être, c'est-à-dire quelque chose que Dieu l'a commandé, mais j'étais dans la liberté de le porter ou pas, quoi. Donc mes parents, ils n'avaient pas d'avis, c'est-à-dire, si tu le fais, c'est bien, si tu le fais pas, c'est peut-être pas bien, l'islam c'est ça, après tu fais ce que tu veux. Donc je ne me sentais pas obligée, mais c'était pour moi une expérience de tester et de voir ce que c'est. Ça allait de soi de porter quelque chose sur ma tête, puis j'aimais bien. Alors je mettais des petits bandanas qui étaient à la mode dans les années 2000, avec les petits motifs là, petits bandanas carrés. Donc il y avait aussi ce côté collection, j'avais vraiment toutes les couleurs que je mettais selon la tenue. Je le portais vraiment de manière pas imposante et plutôt discrète, et si vous voulez, quand vous le voyez, vous ne savez pas si c'est vraiment un foulard. Et c'était volontaire de ma part, justement, parce que c'était aussi ma manière de l'approcher, de l'apprivoiser. Je ne savais pas ce que c'était, hein. C'était une nouvelle expérience. Quand on est ado, on s'essaye à plein de choses. Donc à ce moment-là, j'aurais peut-être pu m'essayer à d'autres choses, hein. Mais comme je l'ai dit, j'avais de l'intérêt pour la religion. Alors c'était une prolongation de mon intérêt pour la religion de le porter à ce moment-là. Et puis, lorsque j'allais au collège, on ne me disait rien à l'entrée du collège. Donc, je pouvais rentrer avec mon bandana, mon foulard. Et arriver en salle de cours, par contre, j'étais obligée de le retirer. Donc ça, c'était en 2003. Et puis, donc, la loi du 15 mars 2004, elle a été votée. C'est la loi qui interdit tous les signes ostentatoires à l'école. Donc, je fais ma rentrée en 5e. Donc je suis partie comme d'habitude, peut-être un peu plus belle que d'habitude parce que j'avais vraiment mis mes bijoux, mon bandana comme d'habitude. Donc je savais qu'il y avait la loi, mais je n'étais pas concernée parce que je ne portais pas de signes ostentatoires. Je franchis le portail et là, je trouve toute une équipe pédagogique qui m'attend de pied ferme. Donc il y avait le proviseur adjoint, un CPE, une prof et une surveillante. Et donc, ils me prennent de côté. Ils me disent, mademoiselle, suivez-nous. Vraiment pas un sourire, pas un bonjour. Donc, la couleur, elle était annoncée. On fait monter dans la salle du proviseur. Donc, il s'assoit. J'étais debout dans la salle et encerclée. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, commence un discours très solennel du proviseur, vraiment. Je comprenais d'ailleurs pas la moitié de ses mots. C'était des mots très techniques, mais je déduisais leur sens à partir de leur gestuelle, leur regard, etc., qui me faisait comprendre que c'était un mot assez dangereux. Donc, il a cité plein d'articles de loi. Enfin, il m'a fait un petit rappel des valeurs de la République, de ce que c'est être citoyen, citoyenne française. Il m'a parlé de l'égalité également, que les garçons ne portaient pas de couvre-chef et que pourtant les filles portent, que je ne devrais pas le porter. Enfin, il m'a fait la morale. Ensuite, c'était passé au CPE, à lui de me faire un petit discours. Donc j'ai écouté et puis ils m'ont dit que je devais me plier à la loi, que je devais retirer mon foulard, sinon je risquais d'être exclue. J'ai refusé, j'ai dit non, je ne vais pas le retirer. Et je me souviens que je persistais à dire non, monsieur, ce n'est pas un foulard, c'est un accessoire. Mais ce n'est pas un foulard, vous ne pouvez pas dire que je suis musulmane. Et eux, ils me disaient, mais si, mademoiselle, vous affirmez votre religion, c'est une forme de prosélytisme. Et je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'explique alors ce que c'est, justement, en me disant, lorsque vous portez ce foulard, vous envoyez un message et puis un certain nombre de valeurs à vos camarades. Voilà. Et à ce moment-là, du coup, j'ai compris ce que c'était et j'ai répondu simplement que non, je n'envoie aucun message parce que je ne mets pas de discours, je ne parle jamais de religion avec mes copines, mais jamais de la vie. Enfin, donc on m'a dit très bien, dans ce cas-là tu vas aller dans une salle, tu vas réfléchir, parce que tu ne pourras pas aller en cours, donc j'ai pas fait ma rentrée. J'ai été accompagnée, escortée je dirais plutôt, par une surveillante. On m'a mis dans une salle à l'étage, j'étais toute seule, et les heures passent. Donc au début je croyais que ça allait s'arranger, je n'imaginais pas être exclue pour mon bandana, et le pire c'était pour mon joli bandana. En plus j'étais très têtue, pour moi je n'allais pas le retirer. Hein. j'étais dans l'opposition parce que je trouvais ça injuste. Je voulais m'habiller comme je voulais et surtout que pour moi, au sein de l'école, c'était primordial de recevoir tous les élèves tels qu'ils étaient et que si jamais ce que je portais était le mauvais choix, que je puisse m'en rendre compte moi-même. Donc chaque heure à peu près, elle venait me ramener un verre d'eau. Est-ce que tu as réfléchi? Comment tu te sens? Je ne savais pas sur quoi je devais réfléchir au juste. Ce qui est marrant, c'est que la surveillante qui était chargée de venir me rassurer, c'était la seule qui était d'origine maghrébine comme moi, et donc elle venait, elle s'appelait Myriam, elle était très gentille, très douce. Et moi, elle me disait, écoute, tu sais, la religion, c'est pas ça. Écoute, la religion, c'est dans le cœur. Ce que tu fais, ben, tu crois que c'est bien, mais en fait, c'est pas bien. Elle m'a dit, écoute, si tu veux, je peux t'aider à le retirer. Elle commençait à mettre sa main sur mon bandana. Alors là, j'ai vraiment pas supporté. Voir qu'on interférait à ce point-là dans ce qui était pour moi très intime, ben, ça me dérangeait beaucoup. Pour moi, c'est me prendre mon corps. Les jours passent, j'ai passé à peu près 2 semaines comme ça, donc c'est toujours le même rituel, hein, des réunions, un discours, un rappel à l'ordre. Ils ont eu entre-temps mon père au téléphone pour l'informer de la situation, pour fixer avec lui un rendez-vous. Alors, ils ont eu un discours avec mon père très gentil, contrairement le discours que j'ai pu ressentir moi comme oppressant, pas du tout. Là, c'était un discours vraiment très ouvert, très sympathique. Oui, alors mon père était imam et puis il avait bonne réputation dans la ville. Ils ont dit à mon père qu'il y a la loi, que si je désobéissais à la loi, c'était très grave, que je risquais de perdre ma scolarité, ce qui était dommage pour moi parce que j'étais une élève plutôt studieuse, etc. Donc ça, c'est un discours qui a beaucoup parlé à mon père, qui était complètement d'accord, évidemment. Je ne vais pas gâcher ma scolarité. Donc on rentre à la maison, mon père me dit clairement, écoute, il m'a dit tu vas le retirer, tu ne vas pas faire de problème. Je pense que mon père pensait que c'était aussi une petite crise de rébellion de ma part, que c'était pas très grave. En tout cas, il mesurait pas à quel point c'était important à ce moment-là pour moi. Je pense que ça, il le mesurait pas du tout. Ensuite, je repars en cours. Et donc, à ce moment-là, le proviseur m'a dit, écoutez, si vous vous obstinez tant à le garder, vous dites à votre père qu'il vous mette dans un collège musulman. Je lui dis, mais attendez, je n'ai pas allé dans un collège musulman. Il m'a dit, c'est la seule solution pour vous si vous voulez le garder. Ici, on applique les lois de la République, etc. Donc, le même discours. Je lui dis, mais non, c'est pas possible. J'ai mes copines, etc. Et je crois que ça m'avait secouée à ce moment-là parce que je ne m'imaginais pas être... qu'avec des Arabes, qu'avec des musulmans, qu'en intra-communautaire, et puis du coup perdre tout le monde, mes copines, mes copains, puis bon, Brevilliers, c'est pas à côté. Donc à ce moment-là, on me dit que je ne vais plus pouvoir venir à l'établissement, que je prenais mon temps de réfléchir chez moi, et que j'avais une semaine, sinon je serais exclue définitivement. Et à ce moment-là, j'avais réfléchi, je voulais continuer ma scolarité, tout en sachant que je ne pouvais pas continuer avec mon foulard, mais en gardant mon foulard. C'est-à-dire que, en fait, je n'avais pas changé de position. Donc, je suis partie avec le bandana et j'ai dialogué avec le proviseur, lui dit, écoutez, pour moi, c'est important et qu'on devait trouver un compromis, que s'ils faisaient, eux, un effort, j'étais prête à en faire. Et là, il m'a dit, mais attendez, qu'est-ce que tu proposes? Et je lui ai dit, écoutez, je vais porter un bandeau qui est un peu large, qui couvre, on va dire, le quart des cheveux, mais clairement, vous voyez, tous mes cheveux, donc les cheveux étaient lâchés. Enfin, voilà. Clairement, c'était pas un foulard, là, il faut arrêter. Mais pour moi, j'avais quelque chose sur la tête. Le proviseur me dit non, il est hors de question, vous n'avez pas apporté de bandeau. Et je vous rappelle que le règlement intérieur du collège vous interdit de porter tout couvre-chef. Puis vous avez même signé le règlement intérieur, alors vous devez vous y soumettre. Et donc là, je regarde dans le règlement intérieur et il n'y avait aucune allusion à couvre-chef. Donc, Ils se sont réunis en urgence. Ils ont modifié le règlement intérieur. Donc, il y a eu un petit article qui a été rajouté. Donc, c'est écrit « Tout couvre-chef ». Donc, il y avait deux points. Bandeau, casquette, bandana, que tout couvre-chef est interdit. Et donc, à ce moment-là, donc, la menace d'être exclue définitivement a opéré. J'ai dû faire un choix. Le choix était de le retirer, donc j'ai été tête nue, vraiment rien, même pas une barrette, rien. J'avais une coupe carrée à l'époque, j'avais les cheveux en l'air et je suis partie en cours et au portail je l'ai retiré. Je me souviens très bien parce que la CPE elle m'a dit « Ah bah vous êtes beaucoup plus belle comme ça ». Et vraiment, bah, tout le monde m'a souri à ce moment-là, ça y est, j'étais la bienvenue. Ouais. En fait, par la suite, je l'ai remis quand j'ai eu mon bac. Là, je le porte et je suis très heureuse parce que je suis dans une fac où ça se passe très bien. Je pense que j'aurais aimé trouver peut-être une oreille attentive, un professeur ou une qui soit plus dans la compréhension parce que jamais on m'a questionnée sur mes motivations. En fait, le foulard, c'est une espèce de cohérence avec ma spiritualité, en fait. Et c'est un peu le paradoxe du foulard, c'est-à-dire, on le voit, il est apparent, mais en fait, j'ai envie de dire que ce que vous voyez, c'est rien parce que c'est à l'intérieur. Donc évidemment, c'est difficile à comprendre. Mais c'est ça, ma spiritualité ne se voit pas. Elle ne se mesure pas au foulard. Voilà. I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse, laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, au-delà du voile, premier épisode, la suite à suivre demain, reportage de Charlotte Bien-Aimée, réalisée par Emmanuel Geoffroy, Sandrine Chaponcet, bien sûr l'attachée de production des Pieds sur Terre. Merci à Jean-Claude, à Amal, à Yamina, à Narges, à Sephora, à Amélia et à Anan. N'hésitez pas à partager nos émissions sur les réseaux sociaux, compte Facebook, page Facebook, compte Twitter, tout ce que vous voulez. Vous pouvez également poster des commentaires soit sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre, soit sur ces fameux réseaux sociaux. Voilà, on vous y attend toujours avec impatience.